Herminie, chapitre 4. Le mot de l'énigme. Édouard rentra au foyer du bal de l'opéra, ne comprenant rien à ce qui lui arrivait. Il avait entendu bien des femmes lui parler de réputation, de nom de famille, et lui dire qu'elles pouvaient tout perdre pour lui, puis un jour disparaître et recommencer près d'un autre le même manège. Mais on n'avait jamais exigé de lui des serments aussi formels, ni un silence aussi positif, de sorte qu'il doutait encore s'il devait continuer cette intrigue. Mais peu à peu, en voyant autour de lui ce monde frivole, plein de fleurs, d'esprit et de joie, il fut convaincu que toutes les femmes étaient comme celles qu'il avait sous les yeux, et que celle-là même qu'il venait de quitter n'avait voulu que rire un peu à ses dépens, et lui faire subir à peu près, pour être son amant, le même examen que pour être franc-maçon. Il se persuada donc que le lendemain, il allait avoir le mot de l'énigme, et que tout en se terminerait à sa grande satisfaction. S'il eût pu prendre un instant au sérieux pareille aventure, il ne s'y fût pas engagé une minute. Lui, le garçon insoucieux par excellence, vivant de liaisons frivoles et de parties joyeuses, enveloppait sa vie dans de ces amours terribles qui enivrent d'abord et qui tuent ensuite, cela lui sembla impossible, ou du moins, cela lui sembla impossible tant qu'il fut dans le bal et qu'il eut à son bras une de ces femmes à l'amour tissu d'air dont il reconnaissait le visage sous le masque et le cœur sous l'esprit. Mais quand il fut rentré chez lui, telle était la versatilité de son caractère qu'il se mit à se créer, comme Pygmalion, une statue dont il devint amoureux. Il ne rêva plus qu'une passion, comme Werther, moins le suicide bien entendu. Il entrevit des échelles de cordes, des rêveries du soir, des enlèvements, des chaises de poste, des duels. Et comme il était fatigué, que les oreilles lui tintaient encore de la musique du bal, tout se termina dans un set par un galop général auquel il s'endormit fort agité. Quand il se réveilla, il faisait grand jour. Le soleil s'était levé par hasard et comme s'il se fût trompé de pays. Édouard se frotta les yeux, regarda l'heure, ouvrit la porte de sa chambre à coucher et vit son portier qui faisait tranquillement son ménage. Il lui demanda s'il n'avait rien pour lui. « Non, monsieur, » répondit le bonhomme. « Ah, si fait, une liste de souscription qu'on a apportée à monsieur pour un pauvre ouvrier qui s'est cassé la jambe hier au soir dans notre quartier en tombant d'un échafaudage sur lequel il travaillait. C'est un pauvre père de famille. »« Donnez, » dit Édouard en prenant la liste. Il se mit à la parcourir afin de voir par ce qu'avaient mis les autres ce qu'il lui fallait mettre. Le dernier nom était celui de Mademoiselle Herminie de 3 étoiles, inscrite pour 500 francs. « Quelle est cette personne qui a donné plus que tout le monde ?» demanda Édouard. « Oh, c'est une bien digne demoiselle, » reprit le portier, « qui fait beaucoup de bien aux pauvres. Elle demeure à côté. Ah, n'est-ce pas une grande jeune fille brune, un peu pâle ? Oui. Est-ce que monsieur la connaît ? Non, mais je l'ai vue entrer dernièrement dans la maison, à côté, et d'après ce que vous dites, je présume que c'est elle. Oui, monsieur, c'est elle. Mademoiselle Herminie demeure là, avec sa tante. Figurez-vous, monsieur, que cette femme-là monte à cheval et fait des armes comme un homme. Sa tante ? Ah non, mais non, mademoiselle Herminie, vraiment. Mais c'est une très belle éducation pour une jeune fille. « Oh, j'ai été maître d'armes dans mon régiment, » continua le portier. « Je puis dire que je tirais crânement. Eh bien, monsieur, elle a su cela. Elle n'a pas eu le cesse que je n'eusse fait des armes pour elle, avec elle. Me rappellerai toujours cela. Oh, c'était un matin du mois dernier. Vous n'étiez pas encore notre locataire. Oh, si fait, vous l'étiez déjà. » Elle m'envoie chercher. On m'a fait entrer dans une petite salle d'armes, très gentille, où je trouve un joli jeune homme. C'était elle qui voulait faire un saut. On me donne un blason, un fleuret, je mets un masque et un gant, et nous voilà en garde. Oh, monsieur, un vrai démon! 5 coups de bouton avant que je puisse seulement parer. Et des dégagements, des cons, des coupés. Il fallait voir, on eût dit l'épée de l'archange Michel. Parole d'honneur, j'étais essoufflé, j'en pouvais plus, qu'elle était aussi tranquille qu'en commençant. Oh, c'est une fière luronne. Et qu'est-ce que dit sa tante de ses habitudes? Que voulez-vous qu'elle dise, la brave femme? Du moment que ça amuse cette jeunesse, on ne peut pas empêcher ça. C'est la faute de son père. Pourquoi? Oh, ce qui paraît, son père était un ancien qui était solide et que l'empereur aimait beaucoup. Alors il grillait d'avoir un garçon pour faire un soldat du fils comme lui était soldat du père. Et voilà que sa femme devient enceinte. Voilà notre homme content. Il croit que ça va être un garçon. Crac! C'est une fille. Et la pauvre mère meurt des suites de ses couches. Puis comme un malheur n'arrive pas sans l'autre, voilà l'empereur qui revient de Waterloo. Voilà la grande débâcle qui arrive. Voilà le monde sans dessus-dessous. Et bref, voilà mon ancien qui vit à la campagne, tout seul, entre le tombeau de sa femme et le berceau de sa fille. Alors, quand la petite a été un peu grande, il a voulu en faire un garçon. Il la faisait mettre en homme, il la faisait monter à cheval, tirer le pistolet, nager, faire des armes et le diable à quatre. Si bien que la petite gaillarde, qui avait une santé de fer, menait une vie d'enragée et rossait tous les petits garçons, ce qui amusait beaucoup le papa. Ah, mais c'est très joli cela, continuez, vieillard. Édouard, voyant le portier sourire, détourna la tête. Le narrateur s'appuya sur son balai et continua. « Mais c'est pas le tout. Le papa avait beaucoup de blessures. Pas mal de rhumatismes dessous et un beau jour, il cassa sa pipe, comme on dit au régiment. Si bien que mademoiselle Herminie, qui avait alors 15 ans, resta avec sa tante, qui amassait le monde et qui, fatiguée de la campagne, s'en vint vivre à Paris avec sa nièce et occupa l'hôtel à côté. » Et quand elle eut 17 ans, on parla de la marier. Ah ben oui. Elle a dit qu'elle n'épouserait qu'un homme qui couperait comme elle 25 balles de suite sur la lame d'un sabre et qui la toucherait 10 coups contre 5. Si bien que les prétendants s'en sont allés avec des coupes de boutons et rien de plus. C'est très curieux, fit Édouard d'un ton sceptique. Oh, donnez-moi mes bottes, il faut que je sorte. Oui, monsieur. Et elle est riche? Oh, très riche. Oh, il faut l'avoir montée à cheval, suivie d'un domestique. John me disait hier que quand il revient de l'accompagner au bois, il n'en peut plus, il est sur les dents. Maintenant, on est habitué à ça. Personne n'y fait plus attention. On la traite absolument comme un homme. Tenez, voilà 20 francs pour la quête. Ah, mais il faut que monsieur signe. Ah oui, c'est juste. Édouard prit une plume et mit son nom au-dessous de celui de la belle Amazone. Puis tout à coup, il s'arrêta en disant « C'est impossible. Ah, monsieur refuse de donner ses 20 francs. Oh, monsieur est libre. Mais je connais cette écriture-là, murmura Édouard. Que dit monsieur ? Non, non, je n'ai plus besoin de vous. Allez-vous-en, je garde cette liste. Vous montrez la prendre quand on viendra la chercher. Je vous dis, ah, j'ai vu cette écriture-là, se dit Édouard quand il fut seul. Puis tout à coup, il se frappa le front et alla fouiller dans la poche de son habit pour y reprendre la lettre de son domino. Mais il se rappela qu'il la lui avait rendue, ou plutôt qu'il l'avait déchiré sous ses yeux, et il revint à la liste pour s'assurer de l'identité de l'écriture. C'était si invraisemblable que cette jeune fille, qui n'avait entrevue qu'une fois, fut l'héroïne de ces 2 bals masqués, qu'il rejeta toute supposition à son égard. Et cependant, il revenait à toute minute regarder le nom, et tant qu'il l'avait sous les yeux, il restait convaincu que la lettre était de la même main qui avait signé l'offrande de 50 francs. C'était à n'y pas croire. Aussi Édouard croyait-il de plus en plus. « Par Dieu, pensa-t-il, elle m'a dit j'apprendrai son nom aujourd'hui. Ben le voilà, son nom. Elle m'a dit que je la verrai. Eh bien, je vais sortir et je la verrai sans doute. » Il se mit à s'habiller, passant dans son cabinet de toilette qui, comme on se rappelle, donnait sur une petite cour. Le portier avait laissé la fenêtre ouverte et au moment où Édouard s'avançait pour la fermer, il vit passer derrière les vitres de la fenêtre vis-à-vis de la sienne la jeune fille qui le regardait et mettait un doigt sur sa bouche, signe qui, dans toutes les langues, se traduit par « silence ». Puis le rideau retomba et tout fut dit. Édouard resta comme pétrifié. Le cœur lui battait à lui rompre la poitrine. Il ferma sa fenêtre, puis s'assit et se mit à réfléchir. Le résultat de ses réflexions fut que maintenant qu'il savait quelque chose, il ne comprenait plus rien. Il acheva sa toilette et sortit. « Je crois bien que je serai discret, » se disait Édouard. « Comme elle est belle. Et cette pauvre Marie, que je lui ai promis de ne plus voir. Mais comment faire pour me brouiller avec elle ?» Tout en faisant son petit monologue, il arriva rue Vivienne et trouva Marie assise et boudeuse au coin du feu. « Bonjour, » dit-il en entrant. « Bonjour, » répondit la jeune femme d'un ton sec. « Tu es malade ?»« Non. Qu'est-ce que tu as ?»« Je n'ai rien. »« Mais pourquoi fais-tu la moue ?»« Parce que... »« Mauvaise raison. Adieu. » « Tu t'en vas ?»« Oui. Bon voyage. » Édouard sortit. Quand il est descendu un étage, il entendit Joséphine qui lui criait par-dessus la rampe. « Monsieur !»« Eh bien » fit-il en relevant la tête. « Madame veut vous parler. » Édouard remonta. « Mais qu'est-ce que tu me veux ? » dit-il en rentrant. « Assieds-toi là. » « Et après ?» continua-t-il en faisant grondeur à son tour. « Avec qui as-tu été au bal hier ?»«
Avec Henri et Émilie. »
« Et qu'est-ce que c'est que cette femme avec qui tu as causé toute la nuit ?»«
C'est ma tante. »«
Oh, je te conseille de plaisanter. Écoute, Édouard, si tu ne m'aimes plus, avoue-le. » Plutôt que de me faire jouer au rôle ridicule et de m'exposer à m'entendre dire partout que tu m'as quitté, moi malade, pour conduire je ne sais qui au bal de l'opéra.
Oh, avec ça que c'est drôle, le bal de l'opéra.
Et le jeune homme se mit à remuer le feu avec les pincettes.
D'abord, continua Édouard en riant, je n'ai conduit personne au bal de l'opéra. Bon, une femme est venue me parler, je ne pouvais pas la faire arrêter par les municipaux.
Et quelle est cette femme ? Je ne la connais pas. Tu mens.
Je te le jure. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qui te prend. Je sors pour venir te voir, et au lieu de travailler et d'aller à l'école, et voilà que...
Aujourd'hui, c'est dimanche, on ne va pas à l'école.
Oui, mais je pouvais étudier.
Va donc, mon bonhomme, va donc. Je sais ce qu'il me reste à faire.
Fais ce que tu voudras. Tu peux même, si ça t'amuse, écrire des livres sur la morale, mais je te préviens que je ne les lirai pas.
C'est donc beau, ce que tu dis là ?
Tu es bien fier. Il y a des académiciens et des sénateurs qui en font. C'est très joli.
Tiens, va-t'en. Je te jetterai mes pincettes dans la tête.
Ce n'est pas la peine de me rappeler pour me dire ça.
Je veux que tu me conduises au cirque ce soir.
Mais ton dialogue manque de suite, c'est impossible. Mais pourquoi? Parce que je dîne en ville. C'est bien. Quand tu me reverras, il fera chaud. À l'été prochain, cher ami. Marie passa dans une chambre voisine et ferma violemment la porte. Quant à Édouard, il sortit en se disant « Ah, me voilà brouillé. Qu'on dise encore qu'il n'y a pas une providence. » Il était près de 4 heures, Édouard prit une voiture et rentra chez lui. On lui remit une lettre, il l'ouvrit et lut. « J'ai entendu parler d'un homme qui, le lendemain du jour où il s'était aperçu que la femme qu'il aimait demeurait en face de chez lui, avait trouvé moyen de jeter un pont sur les deux fenêtres et de venir la trouver à minuit. Il est vrai que c'était un homme d'esprit, de courage et de cœur. On remit en outre à Édouard la carte d'Edmond qui lui faisait dire qu'il serait à 5 heures en face du café de Paris. Chapitre 5. Un visage découvert. Édouard monta chez lui. Il s'agissait de mesurer la distance qui séparait les deux fenêtres et, comme disait la lettre, d'établir un pont. Ce n'était pas chose commode, d'autant moins qu'on ne pouvait prendre que des mesures approximatives. Enfin, comme il n'y avait pas de temps à perdre, il calcula le mieux qu'il put, redescendit, entra chez un charpentier qu'il trouva sur son chemin et dit qu'il lui fallait pour le lendemain une planche large d'un pied, longue de 10 et épaisse de 3 pouces. Puis il donna son adresse, paya et sortit. À 5 heures, il trouva Édouard Edmond qui l'attendait sur le boulevard. « Quoi de nouveau ?» dit Édouard. « Oui, hein. A-t-on répondu à ta lettre ?»« Oui, tiens, voilà la réponse. » Édouard lut. « Monsieur, pour qui me prenez-vous? Vous êtes un sot. » S.A.U.T. Léonore. Édouard ne put s'empêcher de rire. « Mais qu'est-ce que tu dis cela, fit Edmond. Je dis que ça, c'est pas une réponse bien encourageante. Mais toi qui connais tant de femmes, fais-moi donc connaître une. Oh, tu es donc toujours vacant. Toujours. » Suffit d'aller toujours les plus tristes qui se soient dit. « Eh bien, je t'en ferai connaître une. »« Vraiment, oui. »« Quand ? Aujourd'hui même. »« Blonde ? Oui. »« Une femme honnête ? Parbleu, mais fort sensible. »« Tu vas me présenter ? Tu iras seul. »« Me mettras à la porte. »« Tu donneras quelque chose de ma part. » Il faut que je lui fasse un cadeau quelconque, autant que ce soit toi qui profite de la bonne humeur qui en résultera. » Édouard entra chez Marsay, choisit un bracelet auquel il joignit cette lettre. « Ma chère Marie, oublie ce qu'hier encore j'étais pour toi. Souviens-toi toujours de ce que je serai désormais, un ami sincère et dévoué. Permets-moi d'offrir ce bracelet à ton bras droit. S'il n'en veut pas, qu'il l'offre à ton bras gauche. Celui qui te le remettra est un de mes bons amis, qui voudrait devenir des tiens. Maintenant, continua Édouard, porte cela à Mademoiselle Marie, rue Vivienne, 49. Edmond disparut comme l'ange de la visitation. Quant à Édouard, ne sachant que faire de sa soirée, il rentra de fort bonne heure, étudia de nouveau les localités, réfléchit longtemps à tout ce qui lui arrivait et s'endormit. Le lendemain matin, il fut réveillé par le charpentier qui lui apportait sa planche. Ce brave homme était fort intrigué et voulait absolument savoir ce qu'on pouvait faire d'une planche de 10 pieds dans un appartement si petit. Il ne s'expliquait cela que par un amour exagéré du bois et par le besoin qu'éprouvait l'acheteur d'en avoir toujours auprès de lui. Il ne put y tenir et demanda où il fallait mettre la planche. « Dans le cabinet de toilette. »« Et comment faut-il la poser ?»« Droite, appuyée contre le mur. »« Ben, si monsieur voulait me dire pourquoi c'est faire, nous pourrions la placer tout de suite. »« si c'est pour y poser des objets lourds. Car il faut que les objets soient lourds pour que monsieur les commande si fort, en y mettant dessous des supports solides. Non, c'est pour faire un jeu chinois, dit Édouard. Le reste me regarde. Le charpentier sortit, et quelque temps après, Édouard entra. Quelle nouvelle, lui demanda Édouard. Oh, m'a pas très bien reçu. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, presque rien, elle m'a remis cette lettre pour toi. Édouard ouvrit et lut. Mon cher Édouard, je te remercie de ton bracelet, mais quand tu voudras que tes cadeaux me fassent plaisir, il faudra pas me les envoyer par des ambassadeurs, aussi insolemment bêtes que ton ami. Oh, parle-t-elle de moi? Dit Edmond. Non, 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 du tout, ce sont des choses particulières. Alors j'y retournerai aujourd'hui. Oh, fais comme tu voudras. La journée se passa comme toutes les journées, à la fin desquelles on doit faire une chose plus importante que la veille, c'est-à-dire qu'Édouard n'avait qu'une pensée et que tous ceux qu'il rencontra passèrent devant lui comme des ombres, sans que son esprit en gardât le moindre souvenir. Les rideaux de la fenêtre voisine restèrent inviolablement fermés. Il y avait même des moments où Édouard croyait avoir fait un rêve et ne savait plus ce qu'il lui restait à faire. Les aiguilles de la pendule, qui devaient, selon toute probabilité, marcher si vite pour lui à partir de minuit, marchaient bien lentement pour arriver là. Une bizarrerie de l'homme, c'est de vouloir, quand il attend une heure avec impatience, faire taire au moment en temps un chemin aussi rapide que celui de sa pensée. Ainsi, Édouard se promenait dans sa chambre, reconstruisait dans son esprit les commencements de cette aventure, s'en reprenait en tête toutes les suites possibles, rêvait tout un monde inconnu et restait fort éloigné de n'avoir mis que 5 minutes au plus pour tout cela. Mais enfin, si lentement que semble marcher l'heure, il faut que celle qu'on attend arrive. Et alors, chose assez étrange, une fois qu'elle est arrivée, toutes les choses indifférentes qu'on a faites s'effacent, et il semble qu'elle est venue bien vite. Minuit sonna. Édouard se mit derrière sa fenêtre pour voir s'il apercevait, à celle de sa belle voisine, quelques mouvements qui le rappelât à la réalité. Au bout de 2 ou 3 minutes, il vit le rideau se soulever imperceptiblement, et comme si son cœur n'eût attendu que ce signal, il se mit à battre avec acharnement. Édouard ouvrit sa fenêtre, tout à fait. L'autre répondit en s'ouvrant de même. L'obscurité était complète. Édouard s'en alla prendre la planche. Or, la planche était lourde, et ce n'était pas chose facile que de poser un pareil monument entre les deux maisons. Et si elle était trop courte, pensa-t-il. Et tout en faisant les réflexions qu'inspirait la circonstance, il approcha son pont et regarda si personne ne pouvait le voir. Il s'assura que tout dormait dans la maison, comme dans la nature, depuis Neptune jusqu'au portier, et il se mit à faire glisser son dessus de précipice sur le rebord de sa fenêtre jusqu'à ce qu'il eût touché celui de la fenêtre opposée. Il avait eu une peine horrible pour accomplir cette manœuvre. Il avait fallu qu'il s'appuyât de tout son poids sur le parti de la planche qu'il tenait pour qu'elle ne s'en allât pas comme une flèche donnée dans les fenêtres du dessous et réveiller tout le monde. Outre qu'une pareille maladresse lui fait perdre tout le bénéfice de son aventure, cette chute n'aurait eu aucune excuse aux yeux des voisins. Si bizarres et si excentriques que soient les habitudes d'un jocataire, il ne peut pas faire croire qu'elles aillent jusqu'à jeter, passé minuit, des planches de 10 pieds de long et de 2 pouces d'épaisseur dans les carreaux des maisons. Il n'aurait guère trouvé de soutien que chez les vitriers. Il faut avouer, pour être vrai, que la crainte de se casser le cou était pour moitié dans l'émotion qu'éprouva Édouard lorsqu'il mit le pied sur la planche. Comme vous pensez, il resta debout sur le pont bouvant que juste le temps nécessaire, et il se trouva bien vite à cheval sur la planche, qui, toute solide qu'elle était, n'en avait pas moins une certaine élasticité de tremplin, fort agréable dans une gymnase, mais fort déplaisante au-dessus de 4 étages. Enfin, comme il n'y avait plus à reculer, Édouard avança, mais avec une précaution qui prouvait tout le prix qu'il attachait à son existence. Arrivé au milieu, il pensa à Marie, se disant qu'il aimerait encore mieux sa vertu d'occasion, qu'il trouvait toujours au bout des 80 marches, que cette vertu toute neuve, qu'il allait trouver par un chemin plus court. Il est vrai, mais bien plus difficile, qui lui faisait faire un exercice qui devait le rendre souverainement ridicule. Enfin, il toucha le bord et ne put retenir un ouf, où il y avait plus de joie d'être arrivé sain et sauf que de bonheur de voir sa maîtresse. À peine eut-il enjambé la fenêtre qu'il entendit la charmante voix du bal qui lui disait « Retirez la planche !»« Oh, ça, se dit Édouard, c'est pas un amour, c'est un déménagement !» Et il se mit à retirer son chemin. La chambre où il se trouva était complètement obscure, si bien qu'il restait là, étreignant dans ses bras cette planche stupide, et ne sachant où la mettre. S'il avait fait jour et qu'il eût pu voir la figure qu'il faisait, il se fût jeté par la fenêtre à l'instant même, et se fût sauvé du ridicule par le terrible. Comme il n'entendait rien, il se hasarda à dire « Où peut-on poser la planche ?» Il sentit une main qui le guidait dans l'ombre. Ayant rencontré un mur, il lui confia ce que, dans 1 ou 2 heures, il aurait de plus cher au monde. Puis il continua de suivre cette main, qui l'attira et le fit asseoir sur une causeuse. Et là, alors, au milieu de l'obscurité, commença à voix basse ce dialogue historique. « Vous tiendrez vos promesses ?»«
Oui. »«
Savez-vous ce que je risque en vous recevant ici ?»
« Savez-vous à quoi je m'expose en y venant ?»«
Je peux perdre ma réputation.
Je peux vous casser le cou, moi. »
« Oh, c'est si peu de choses que la vie. »«
Pardon, pardon, si vous n'en y tenez pas, n'en dégoûtez pas les autres. »«
Je vous l'avais bien dit, qu'il y avait un danger de tous les jours à vaincre pour me voir. »« Il en est temps encore. » « Si vous ne m'aimez pas assez pour vous y exposer, rentrez chez vous et oubliez-moi comme je vous oublierai. »«
Mais je vous aime !» fit Édouard en lui prenant les mains.
« Ma conduite doit vous paraître étrange, mais vous vous rappelez que je vous ai dit d'être pas une femme comme les autres. Je vous aime comme amant, mais je vous haïrai comme mari. La seule idée que quelqu'un aurait reçue d'un pouvoir plus fort que le mien... Le droit de m'empêcher d'être libre serait un tourment sans fin pour moi. Vous êtes mon premier amour, mais je ne vous dis pas que vous serez le dernier. Moi, je n'ai jamais aimé. Je ne sais pas combien de temps on aime. Et du jour où je vous aimerai plus comme aujourd'hui, j'entends que nous devenions libres tous deux et que jusque-là, il n'y ait pas une indiscrétion de votre part. Qu'il n'y aura pas un doute de la mienne, et qu'une fois séparée par ma seule volonté, quoi qu'il arrive, vous cessiez de me connaître et continuiez votre route sans regarder en arrière.
Mais cette femme-là prend un amant comme on prend un domestique, pensa Édouard. Voyons les gages.
Une autre, continua la jeune fille. Se fut mariée et eut attaché ses amours sous sa position nouvelle, ses amants derrière son mari. Et aux yeux du monde, elle eut rendu ridicule un homme d'honneur qui lui aurait donné la moitié de sa vie et confié son nom. Moi, je ne trompe personne. Je suis libre de mon amour comme de ma pensée. Je suis venu à vous parce que je vous aimais et que, si hardi que vous fussiez, vous n'eussiez pas osé venir à moi. Très bien, se dit Édouard. Me voilà rangé dans la classe des chiens et des chevaux.
Une seule personne est dans notre secret, mais celle-là sera muette comme moi, parce qu'elle me doit tout. Ne croit et n'espère qu'en moi, et que du jour où elle tenterait de me perdre, elle se perdrait. Ainsi, c'est plus qu'un témoin, c'est un auxiliaire.
Si cet amour spontané et violent de la jeune fille était flatteur pour la vanité d'Édouard, la position qu'il lui faisait ne l'était guère pour son amour-propre. Il restait, comme il disait, dans la catégorie des animaux domestiques. Il devenait pour sa maîtresse un peu plus que sa femme de chambre, un peu moins que son chien, un accessoire, un hochet, un passe-temps. Et on le prenait à son tour pour éteindre une passion, comme du reste il avait pris bien des femmes pour satisfaire un caprice. Cependant, tout humiliant que devenait son rôle, il accepta, en pensant que du jour où il serait réellement l'amant de cette femme, il prendrait assez d'empire sur son esprit, sinon sur son cœur, pour passer au moins de la position d'accessoire à celui d'utilité. Édouard était de ceux qui croient que l'amour est la grande chose de la vie des femmes, et que celui qui parvient à s'emparer de cet amour devient leur maître. Il se trompait, surtout pour Herminie, chez qui une éducation exceptionnelle avait plus exalté l'imagination que développé le cœur. Elle se connaissait parfaitement. Il faut dire à sa louange qu'elle était franche avec lui. Elle l'aimait, elle trouvait tout naturel de le lui dire, comme aussi de lui fermer sa fenêtre, du jour où elle lui fermerait son cœur. Mais comme, tout en trouvant l'amour une assez agréable distraction, elle trouvait le monde un charmant plaisir, elle ne voulait pas sacrifier le plaisir à la distraction. C'est pour cela qu'elle exigeait un silence hermétiquement gardé. Mais comme elle trouvait, en trouvant l'amour une assez agréable distraction, elle trouvait le monde un charmant plaisir, elle ne voulait pas sacrifier le plaisir à la distraction. C'est pourquoi elle exigeait un silence hermétiquement gardé. Quant à Édouard, il n'avait pas d'amour pour elle. Si c'eût été une douce et craintive jeune fille, il se fût senti fort auprès d'elle, et peut-être l'eût-il aimé, ne fût-ce que pour avoir dans sa vie un amour de roman. Si Herminie, qui bravait les préjugés dans le tête-à-tête, les eût bravés en face de tous, si elle l'eût pris, lui, jeune, inconnu, au mépris du monde, et en lui écrivant pour ainsi dire sur le front « Cet homme, c'est mon amant », il en fut devenu fou, parce que son plaisir et sa vanité y eussent trouvé leur compte. Mais une liaison ténébreuse, accompagnée de menaces de mort à la moindre indiscrétion, tout cela n'était pas très engageant pour un homme habitué à des cœurs sans garnison, se rendant, comme les citadelles espagnoles à la première attaque, ne trouvant jamais une arme contre les assiégeants, une fois qu'ils sont devenus les maîtres. Aussi n'accepta-t-il ce que lui offrit Herminie que parce que, après tout, on ne trouve pas tous les jours une belle jeune fille qui jette sur vous tout le feu de son premier amour, et parce qu'il se disait que, lui aussi, il serait toujours libre de rompre ce mariage nocturne et de terminer cette aventure par le dénouement qui lui conviendrait. Il faut dire cependant que ses idées, qui devaient évidemment devenir plus précises chaque jour, ne pouvaient être d'abord qu'à l'état de vague instinct dans l'esprit d'Édouard, en présence de la jeune fille. En l'écoutant, en prenant sa douce main, il se crut capable de tout braver pour elle, pour la femme dont le cœur lui demandait si naïvement la révélation d'un bonheur inconnu, dont l'âme se donnait à lui avec tous les étonnements et toutes les joies d'un premier amour. Elle aussi, qui avait si froidement raisonné sa passion d'abord, semblait entièrement changée. Elle l'aimait, oublieuse du monde et de l'avenir. Si bien qu'à 3 heures du matin à peu près, quand Édouard recommença
pour rentrer chez lui, le même exercice qu'il avait fait pour en sortir, tout se trouvait poétisé à ses yeux, et qu'il ne tenait la vie que pour pouvoir de nouveau, le lendemain, s'exposer à la mort.
Chapitre 6. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Quand Édouard se réveilla, il était convenu qu'il était amoureux fou d'Herminie. Il faisait des vœux de fidélité et de discrétion et ne songeait qu'au moment heureux où il pourrait retourner auprès d'elle. Tout se passa la seconde fois comme la veille. Seulement, Édouard était un peu plus aguerri et traversait son pont avec une rapidité et une insouciance charmantes. Le surlendemain, même amour, même confiance. Enfin, comme les jours se suivaient et se ressemblaient, au bout d'une semaine, il n'y avait pas à Paris un homme capable de passer aussi bien qu'Édouard sur une planche. En supposant que la chose pût durer un an, il fut devenu un des acrobates les plus distingués de la capitale. Les 10 ou 12 premiers jours ne parurent pas longs à Édouard. Il remplissait les souvenirs de la veille et de l'espérance du soir. Mais il lui sembla que peu à peu, les journées se faisaient vides. Il éprouva le besoin de revoir ses anciens amis, qu'il avait négligés pour ses nouvelles amours. Quant à Marie, qui avait paru prendre si facilement son parti de la désertion de son amant, il eût bien voulu savoir ce qu'il devenait, et il n'aurait pas été fâché que le hasard se chargeât de la venger d'une façon quelconque. Mais de quelque manière qu'elle s'y prit, elle ne put rien savoir, sinon qu'on ne voyait plus Édouard nulle part, ni à la promenade, ni au théâtre, et que l'on pensait à croire que, comme Curtius, il était jeté dans un gouffre. Ce fut alors qu'il reparut tout à coup sur le boulevard, rendez-vous quotidien de ses amis. L'un des premiers qu'il revit fut Edmond, qui cherchait toujours un logement et une maîtresse. Il va sans dire qu'il ne trouvait ni l'un ni l'autre. « Ah, mon cher, disait-il à Édouard, c'est une femme comme Marie et un logement comme le tien qu'il me faudrait. » Ah, Marie ne consent donc pas à t'aimer ? Hélas ! Et comment te reçoit-elle ? Oh, quelquefois mal, mais souvent très mal. Ben, va d'un autre côté. Mais je ne connais pas d'autre côté. Ben, que veux-tu que je te dise ? Attends. Mais si je pouvais déménager encore, mais impossible de trouver un logement. Tu trouves tout de suite, toi. Ben, cherche. Je ne fais que cela, pendant que tu es en train de quitter, quitte ton logement et cède-le-moi. Impossible. Adieu alors, adieu. Et le soir, à minuit, Édouard recommença le trajet aérien qu'il avait fait la veille et qu'il devait faire le lendemain. Cependant, cette existence devenait un peu monotone. Plusieurs fois, il avait refusé des parties que, 15 jours plus tôt, il eût accepté avec enthousiasme, et qu'il aurait fort amusé encore, malgré le nouvel état des choses. Il voyait tous ses amis continuer la vie à laquelle il s'était mêlé jadis, et il commençait à les trouver plus heureux que lui. Les premières heures d'enivrement passées, il se mit à réfléchir sur la position ridicule qu'il se faisait, et ses premières idées lui revinrent, mais plus acharnées et plus précises encore que la première fois. Quand, par hasard, il avait une soirée libre, c'est qu'Hermine allait au bal et donnait à ses robes, à des fleurs, à la danse, le temps qu'elle eût dû lui donner tous les jours. Il n'était pas, comme nous l'avons vu, bien sérieusement amoureux, mais il raisonnait comme s'il l'était, et il en voulait à Herminie d'une chose qui très souvent eût été fort agréable à lui-même. Or, si les bénéfices étaient grands, les charges étaient énormes, de sorte que, soit qu'il ne pût supporter l'éveil, soit qu'Herminie fût d'un caractère exigeant, Édouard s'ennuyait à vue d'œil. Les bals se passaient. Herminie voulait bien y aller, mais elle n'entendait pas
que les soirées de liberté qu'elle laissait à son amant, il les occupa à autre chose qu'à penser à elle. Et comme elle avait, grâce à cette femme qui toujours l'accompagnait au bal de l'opéra, une police très bien faite, s'il avait appris qu'Édouard n'eût pas passé la nuit chez lui, il lui aurait fait le lendemain une scène de reproche et de jalousie. Édouard sentait donc que plus il irait, moins sa position serait tenable, et que le moindre accident le rendrait, lui et sa planche, honteusement ridicule aux yeux de ses amis. Plusieurs fois, il avait essayé de partager avec Herminie ses heures de tristesse qu'il avait déjà dans l'âme, mais qui, depuis quelque temps, se représentaient plus fréquentes. Alors il se mettait à ses pieds, et pendant quelques minutes voulait oublier la maîtresse pour l'ami. Mais il s'apercevait bientôt que cette causerie rêveuse, que les gens les plus heureux même échangent et qui repose comme un sommeil, était parfaitement inconnue à la jeune fille. Elle n'avait pas même cette charité du cœur qu'avait Marie, qui, toute folle qu'elle était, effaçait le sourire de ses lèvres roses quand Édouard était triste. 20 fois il lui avait pris les mains, et avec ce bonheur qu'éprouve tout homme à parler de sa vie, si indifférente qu'elle soit aux autres, si uniforme qu'elle ait été pour lui, il avait raconté à Herminie sa première jeunesse, et avait, pour ainsi dire, cherché dans l'amour de sa maîtresse la continuation de l'amour de sa mère. Mais jamais un mot de consolation n'était tombé de la bouche de la jeune fille, dont le cœur ardent, ouvert aux passions, semblait être fermé aux sentiments. Édouard, acceptant cette intrigue dans tout ce qu'elle avait d'excentrique et de nouveau pour lui, avait voulu le plus possible la poétiser. Mais il était forcé de s'avouer que c'était chose impossible, et qu'il était bien heureux de ne pas aimer Herminie. Enfin, il arriva ce qui devait arriver, c'est que, ne trouvant rien de vrai chez cette femme, excepté la passion, il en vint à la mépriser et ne pensa plus qu'au moyen de rompre une liaison qui datait de 2 mois à peine. La veille du jeudi de la mi-carême arriva, et ce jour-là, comme tous les autres jours, Édouard mit sa planche entre les 2 fenêtres, passa dessus, la retira, la remit, la repassa, la reprit, le tout d'un air fort résigné. « Vous serez libre demain, » lui dit Herminie. « C'est le dernier bal de l'opéra, et j'y veux aller. Je vous y verrai, n'est-ce pas ?» Il y avait si longtemps qu'Édouard n'était allé au bal, qu'il fut comme un enfant heureux de cette permission qu'on lui accordait, et le lendemain, à 1 heure, il était dans le foyer. Ce fut encore Edmond qui le premier vint à lui. « Eh bien, lui dit Édouard, rien de nouveau, as-tu trouvé un logement ?»« Non. »« Et une femme ?»« Non plus. »« Mais celle que tu avais au bras tout à l'heure ?»« C'est Marie. »« Et toujours inflexible ?»« Toujours. »« Tant mieux pour toi, parce que tout n'est pas rose chez les femmes. »« Est-ce que tu aurais chagrin de cœur ?» « Non, mais je t'avouerai que je suis fort inquiet. »« Conte-moi cela. »« Oh non, tu es trop bavard. »« Mais compte toujours. » Il y avait déjà longtemps qu'Édouard éprouvait le besoin de faire part à quelqu'un de ses aventures et de ses infortunes. Il se mit donc à raconter à Edmond, qui lui promit le secret, comment il avait connu Herminie, les lettres qu'il avait reçues d'elle, les rendez-vous de chaque soir, l'excentricité de son caractère, et enfin à lui développer toutes les raisons qui le forçaient à rompre. Edmond écoutait fort attentivement. Quand Édouard eut fini, « Mais tu n'as qu'un parti à prendre, lui dit-il. »« Lequel ?»« Mais c'est de partir. »« Oui, j'y pensais. »« À propos, quoi ?» Si tu veux, je pars et je te laisse mon logement. Oh, je vais te le demander. Et quand ? Dès demain.
Le mérite des grandes résolutions, c'est d'être accompli vite. J'ai toujours eu envie d'aller voir les pyramides. Je vais profiter de l'occasion.
Oh, mais je suis le plus heureux des hommes, pensa Edmond. C'est convenu, continua Édouard. Je te laisse mes meubles. À mon retour, tu me les rendras.
Parfait. Mais silence. Sois donc tranquille.
Eh bien, à midi, demain, chez moi. J'y serai. Adieu.
Édouard se fit ouvrir la loge numéro 20 où se trouvait Herminie. Quant à Edmond, il ne se possédait pas de joie d'avoir ce logement qu'il avait tant désiré. Un domino lui prit le bras et il reconnut Marie.
« Édouard est ici, dit-elle.
« Oui, oui. »«
Loge numéro 20, n'est-ce pas ? Je viens de l'y voir avec une femme.
»« Peut-être. »«
Vous la connaissez ? » ?»«
Non. » »«
Mais dites-moi son nom seulement. »
Je l'ignore.
Vous mentez.
Tout ce que je puis vous dire, c'est que demain je prends son logement. Si vous voulez y venir.
Où va-t-il ?
Il part.
Pourquoi ?
Ah, voilà, fit Edmond du ton d'un homme qui est de moitié dans un secret et qu'affecte la discrétion.
Mon petit Edmond, dit Marie d'une voix câlin, dites-moi pourquoi.
Non, vous êtes trop bavarde.
Je vous en prie, je vous aimerais beaucoup.
Bien sûr, et vous ne parlerez de ce secret à personne.
Vous verrez.
Et Edmond se mit à raconter mot pour mot à Marie ce que venait de lui dire Édouard.
La bonne histoire, fit Marie.
Mais surtout, n'en dites rien.
Comptez sur moi. Ah, pardon, voilà quelqu'un que je connais.
Marie laissa Edmond comme si elle eût eu à parler à quelqu'un. Puis elle quitta le foyer et vint regarder par le carreau de la loge numéro 20. Édouard y était encore. Mais quelques instants après, il sortit. Quand il fut hors du bal, elle appuya ses mains sur l'ouverture du carreau, se leva sur la pointe des pieds et dit
« La planche est-elle toujours solide ?»
Herminie se retourna comme si une vipère l'avait piquée. Mais Marie avait déjà disparu en riant comme une folle. Herminie ouvrit la loge et quitta le bal à son tour. Quant à Édouard, il était rentré se coucher afin de pouvoir se lever de bonne heure et faire tous les préparatifs de son départ. Dès le matin, il sortit, courut retenir une place dans la malle de Marseille, fit viser son passeport, alla prendre de l'argent chez son notaire, et à 11h30, il était de retour. À midi, Edmond arriva.
« Tu pars toujours ?»«
Tu vois, dit Édouard, en montrant ses malles à moitié faites. »
« Ah si, alors j'ai pu faire apporter ici tout ce que j'ai. »«
Parfaitement. »«
Eh bien, je resterai jusqu'à 6h avec toi. Je t'accompagne à la malle-poste. »«
Très bien. » Edmond se mit, tout radieux, à visiter son nouvel appartement. Quand il fut arrivé au cabinet de toilette,
« Oh, voilà cette fameuse planche, » dit-il.
« Oui. »«
Oh, je comprends. » Tu l'appuyais sur les deux rebords et t'allais ton train.
Heureux gaillard, va.
Et c'est à minuit que tu allais en face?
Oui.
Tu donnais un signal?
Non, non, j'ouvrais ma fenêtre, elle voit la sienne, et je passais.
Mais si on t'avait vu?
Oh, il n'y avait de lumière ni chez elle, ni chez moi. Et d'ailleurs, la maison n'est pas habitée. La chambre où elle me recevait est détaché des autres appartements, et sa tante habite l'autre partie de l'hôtel.
Quand les malles furent faites, les deux amis sortirent ensemble.
« Je pars, » dit Édouard au portier. « Monsieur gardera mon logement pendant mon absence. Je serai de retour dans 4 mois. D'ailleurs, il y en a 6 de payés. »
« Oui, monsieur, oui, oui, voici une lettre qui vient d'arriver.
Donnez !»
Édouard reconnut l'écriture d'Herminie. « Elle me recommande de ne pas manquer ce soir, » dit-il à Edmond après avoir lu la lettre. « Ce soir, je serai à 20 lieues de Paris. » À 6 heures, en effet, Édouard était parti. À minuit, Edmond, installé dans son nouveau logement, passa dans le cabinet et ouvrit la fenêtre. Celle d'Hermine s'ouvrit du même coup. « C'était un brouillard à ne pas voir un mur. » Il prit la planche, la fit glisser et sentit qu'une main prenait l'autre bout. « Enfin, pensa-t-il, voilà une femme. C'est bien le diable si je ne réussis pas cette fois à me faire adorer. » Et il se mit à enjamber la planche, non sans un certain battement de cœur. Au bout d'un instant, il sentit une main qui l'empêchait d'avancer davantage. Il entendit une voix qui lui disait « Vous savez ce que je vous ai dit la première fois que je vous ai vu ?»«
Quoi donc ?»«
Que si vous parliez jamais de moi, je vous tuerais. Je tiens parole. » Et au même moment, la jeune femme repoussa la planche qui tomba, étouffant dans le bruit de sa chute, le dernier cri d'Edmond. 4 mois après, comme il l'avait dit, Édouard était de retour. En arrivant dans sa rue, il vit qu'on démolissait l'hôtel d'Herminie. Il demanda si Edmond était chez lui. Alors le portier lui raconta que le lendemain de son départ, on avait trouvé le cadavre de son ami dans la cour avec une planche qui, en tombant, lui avait brisé la tête. « On n'a jamais vu ce qu'il voulait faire avec cette planche !» ajouta le portier. Édouard devina tout et resta stupéfait. « Et pourquoi démolit-on l'hôtel à côté » demanda-t-il. « Oh, ben parce que Mademoiselle Herminie, en partant il y a 3 mois pour l'Italie, l'a vendu et que le nouveau propriétaire ne devait revendre pour qu'on puisse percer une rue à cet endroit-là. » Édouard était comme fou. Il monta chez lui, trouva tout dans le même état, revit la fenêtre qu'on n'avait pas encore abattue, telle qu'il l'avait laissée, s'habilla, sortit, courut chez Marie, et y trouva juste les mêmes personnes qu'il y avait trouvées 6 mois auparavant, époque à laquelle nous avons commencé cette histoire. Seulement, au lieu du lansquenet, on faisait un 21. Voilà tout ce qui avait changé dans la vie de son ancienne maîtresse.